C'est une petite fille heureuse. Elle est née en 1910 à une ville qui s'appelle maintenant Skopje. Elle a une sœur et un frère un peu plus âgés qu'elle. Son père dirige quelques entreprises de bâtiments et la maman veille très soigneusement à l'éducation de ses enfants. Agnès fait sa première communion à l'âge de 5 ans et ce jour-là, elle ressent un immense amour pour toutes les âmes. Dans les traits saillants de sa personnalité de petite fille, on peut dire déjà qu'elle a beaucoup d'entrain, de gaieté. Elle fait partie de la troupe de théâtre de sa paroisse, elle joue de la mandoline. Et en même temps, elle reçoit de ses parents un grand sens de la prière et l'exercice de la charité envers les pauvres aussi. Particulièrement après la mort de son père, qui intervient quand elle a 8 ans. Et à partir de ce moment-là, la vie matérielle devient difficile. Et pourtant, sa maman continue à s'occuper encore beaucoup des pauvres. Elle emmène Agnès visiter des orphelins, des malades. Donc Agnès est très habituée, déjà toute petite, à s'occuper des pauvres. Beaucoup plus tard, sa maman, qui était un exemple évidemment édifiant pour elle, lui écrit « N'oublie pas, ma chère enfant, que si tu es partie dans un pays si lointain, c'est pour les pauvres. »
Toute vocation répond à un appel. Quel fut celui de Mère Teresa chez les sœurs de Notre-Dame de Lorette? Un appel à devenir missionnaire?
C'est une vocation qui avait mûri en quelques années. Dès l'âge de 12 ans, elle avait été bouleversée par des missionnaires qui passaient régulièrement. Dans sa paroisse, elle déjà mûrissait en elle le désir de devenir missionnaire. Et donc à 18 ans, elle prend sa décision et elle part donc chez les sœurs de Lorette en Irlande. Là, elle va se préparer pendant 2 mois, elle va apprendre des rudiments d'anglais. C'est sans doute des exercices spirituels pour bien discerner sa vocation. Et puis ses supérieurs l'envoient à Calcutta comme professeur de géographie dans leur collège, qui est plutôt pour des jeunes filles de familles aisées.
Alors, quel est le tournant qui s'opère le 10 septembre 1946 dans la vie de Mère Teresa?
Elle se rend à la garde pour effectuer sa retraite annuelle à Darjeeling, qui est un peu la maison mère en Inde. Et là, c'est là qu'elle reçoit ce qu'elle a appelé après l'appel dans l'appel, c'est-à-dire dans le train qu'il a entre Calcutta et Darjeeling. Elle ne peut dormir et soudain, dira-t-elle plus tard, j'entendis avec certitude la voix de Dieu. C'était un ordre, un devoir, une certitude. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais pas comment. Donc Jésus fait comprendre à Mère Teresa combien il a soif des âmes, à quel point il souffre de voir la négligence de tous envers les pauvres, alors qu'il a un si grand désir qu'ils connaissent son amour de prédilection pour eux. Jésus lui dit « Viens, sois ma lumière, je ne peux y aller seule ». Elle revient à Calcutta, elle reprend son travail au collège, mais Jésus, au cours de vision, de paroles intérieures, lui rappelle avec insistance sa demande. Mère Teresa se décide à confier tout cela à sa supérieure, mais enfin sa supérieure la fait attendre pour éprouver son obéissance. Et puis, quand même, en 1948, elle reçoit la permission de vivre hors de son couvent pour un an. Lorsqu'elle est sortie, elle voulait avoir un sari ordinaire, comme toutes les femmes en Inde. Ce sari blanc, à 3 bordures bleues, représente à la fois la Trinité et la Vierge Marie.
Les missionnaires de la charité forment une grande famille religieuse aujourd'hui. Les sœurs actives sont les premières à avoir vu le jour en 1950. Leur rythme de vie s'équilibre entre action et contemplation. Qu'est-ce à dire?
Ce sont, comme on a pu le dire, des contemplatives. Mère Teresa disait « la prière est la respiration de l'âme. Sans la force que nous recevons dans la prière, notre vie serait impossible ». Donc, malgré la charge souvent écrasante de travail qu'ont les missionnaires de la charité, Mère Teresa a décidé toujours pour que chacune d'entre elles puisse participer chaque jour à l'Eucharistie et passer 1 heure devant le Saint-Sacrement. Et elle disait, ce n'est pas du temps qui est pris aux pauvres. Plus nous recevons dans la prière silencieuse, plus nous pouvons donner. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le pape Benoît XVI, dans Deus Caritas Est, donnait Mère Teresa en exemple. La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière, non seulement ne nuit pas à l'efficacité ni à l'activité de l'amour envers le prochain, mais en est en réalité la source inépuisable. Et Mère Teresa expliquait bien ce lien entre la prière et l'action en voyant dans chaque pauvre la présence de Dieu, je dirais presque autant que dans l'Eucharistie. Elle disait, c'est pourquoi nous ne sommes pas des assistantes sociales, mais des contemplatives au cœur même du monde. Nos vies sont consacrées à l'Eucharistie par le contact avec le Christ caché dans les espèces du pain et du corps souffrant des pauvres.
Comment pourrait-on résumer en fait cette colonne vertébrale des missionnaires de la charité ?
Écoutez, il y a une belle citation de Mère Teresa dans un de ses derniers livres. Je trouve qu'elle résume bien ce lien profond entre contemplation et action, entre prière et charité. Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix.